Maintenant, je vous annonce une bonne nouvelle. Le gros des répétitions et donc du stockage se fait quand on ne fait rien. Dans le chapitre sur l'hippocampe, GPS de nos souvenirs, vous vous souvenez du rat au bout de son couloir. Son hippocampe rejouait le parcours qu'il venait de faire en accéléré et plusieurs fois d'affilée, consolidant ainsi le souvenir du trajet pour trouver de la nourriture. On a alors parlé de replay hippocampique. Eh bien, la journée, quand vous rêvassez, quand vous laissez vagabonder vos pensées, il se passe la même chose. À notre insu, quand on ne fait rien, quand on ne pense à rien de particulier, notre cerveau turbine et consolide nos réseaux de neurones. Cela s'appelle le mode par défaut. Nous y reviendrons dans le chapitre dédié au sommeil. Oui, madame, j'ai bien dit le sommeil, car le replay hippocampique se produit aussi et surtout quand nous dormons pendant la phase de sommeil lent. Chaque jour, au fil de nos pensées, apprentissages et expériences, nous créons des tas de nouvelles traces mnésiques. Chaque nuit, l'hippocampe, en rejoignant l'ensemble de nos déplacements, réactive les plus importantes. Il n'est pas question de rêve ici, puisque interviennent dans la phase de sommeil paradoxal, nous n'avons pas conscience de revivre notre journée.
Mais si les rêves n'entrent pas dans le processus de stockage, vous souhaiteriez peut-être mieux vous souvenir de ces souvent bons moments nocturnes. Voici une astuce qui vous permettra de vous souvenir de vos rêves. Et oui, on peut enseigner à notre mémoire de retenir tout ce que l'on souhaite. Astuce 7. Comment se souvenir de ses rêves? Les rêves se font vite oublier au réveil, à un tel point que certaines personnes sont persuadées de ne jamais rêver. Pourtant, nous rêvons tous durant la phase de sommeil paradoxal. Cette phase fait partie du cycle du sommeil que nous vivons plusieurs fois par nuit. Longtemps, nous avons pensé que les rêves étaient évacués de notre mémoire au réveil pour des raisons de sécurité, comme pour les animaux. Si votre berger allemand rêve qu'il court après un lapin, il vaut mieux pour votre salon qu'il ne confonde pas son rêve avec la réalité en se réveillant. Il est donc plus sage que nous n'ayons aucun doute, nous aussi, sur ce qui appartient au monde onirique et sur ce qui appartient au monde réel. Pour compléter cette hypothèse, des chercheurs américains et japonais ont travaillé ensemble jusqu'à publier leurs travaux en 2019. Ils ont démontré que les rêves n'étaient pas évacués de la mémoire, comme je le disais précédemment, mais au contraire, qu'ils n'y rentrent même pas une seconde. La nouvelle hypothèse serait que le cerveau donne plus d'importance aux souvenirs de la veille, qu'il faut stocker, qu'aux histoires étranges que vous seul connaissez. Vous ne pouvez vous souvenir que d'un seul type de songe, ceux que vous faisiez juste avant de vous réveiller. Si vous n'avez pas ouvert les yeux en plein sommeil paradoxal, alors désolé, le rêve est déjà effacé. 1. Gardez les yeux fermés. La première étape est une phase de lenteur. Ne cherchez pas à vous activer tout de suite. De quoi rêviez-vous? Il vous reste encore une petite trace mnésique et si vous tirez dessus, les yeux encore fermés, vous allez pouvoir identifier quelques éléments de votre rêve, une petite partie ou tout le rêve. Rejouez ce rêve dans votre tête une fois ou deux, pas plus, sans quoi vous allez vous rendormir et peut-être repartir dans le même rêve. On appelle ça jupjoter. 2. Laissez votre téléphone dormir. Dès que les premières informations du monde réel vont stimuler votre cerveau, le mince souvenir que vous avez va s'envoler et après, c'est terminé. Plus moyen de le retrouver. Il n'existe plus. Alors ne commencez pas à prendre votre smartphone, à allumer la radio ou à discuter. Prenez plutôt votre stylo. 3. Écrire ses rêves. Parce que oui, vous avez prévu, avant de vous coucher, un carnet et un stylo proche de votre lit. Vous allez y noter tout ce dont vous vous souvenez de votre rêve, tout ce qui vous aidera à recoller les morceaux lorsque vous relirez vos notes. On appelle ces carnets des carnets à rêves. Ça semble assez logique, effectivement. Plus vous le ferez, et plus vous retiendrez vos rêves facilement. Dans quel but? Aucune idée, je ne livre que l'astuce. Personnellement, j'aime bien me souvenir de ces aventures de la nuit qui parfois me rappellent de vieux souvenirs, ou au contraire, me montrent des possibles. N'oublions pas que pour construire les rêves, le cerveau va piocher dans la mémoire.
Pour le moment, gardez les yeux grands ouverts, car si le cerveau consolide certaines synapses pendant notre sommeil, il en élimine encore plus. Nos souvenirs subissent le même sort qu'un buisson trop foisonnant. Il faut le tailler. Comme ce buisson, notre cerveau a des ressources limitées. Les synapses consommant beaucoup d'énergie, il supprime les plus fragiles ou superflus pour ne garder que les plus utiles. Les synapses non renforcées se défont et retrouvent leur forme initiale, prêtes à créer de nouvelles connexions le lendemain. Dès la première nuit, notre hippocampe trie ainsi les événements de la journée qui méritent d'être stockés, éliminant les autres. Notez que ces choix, les informations à garder et celles à supprimer, sont en partie liés à notre personnalité, à notre humeur du moment, à nos envies, à nos motivations, à nos objectifs personnels, mais aussi à nos valeurs et à nos stéréotypes. C'est-à-dire que notre cerveau cherche en priorité à renforcer nos convictions, donc à retenir les éléments qui les confirment et à éliminer ceux qui les infirment. C'est le biais de confirmation dont Fabien parlait juste avant. Tout cela influence ce que notre inconscient va estimer important ou nécessaire de retenir. Le sommeil est donc fondamental pour la consolidation de nos souvenirs et apprentissages. D'ailleurs, plus vous dormez, plus vous stockez. C'est d'autant plus vrai lorsque vous êtes enfant ou adolescent et que vous devez mémoriser un nombre incroyable de choses allant de la règle de 3 à la liste des rois de France, en passant par comment tenir votre fourchette correctement et jouer au rami avec votre grand-mère.
Je crois que c'est le bon moment pour tordre le cou à quelques idées reçues sur la mémoire, Michel. Ce que l'on appelle les neuromythes. Tout d'abord, le sommeil. Beaucoup de personnes pensent que notre cerveau peut retenir des choses pendant son sommeil. Il se vend même des fichiers audio de cours que vous pouvez écouter en dormant dans l'espoir de les retenir. Gardez votre argent, car, vous le savez maintenant, nous ne pouvons pas télécharger des données dans le cerveau comme dans Matrix. Il faut être conscient pour solliciter toutes les ressources nécessaires à un bon encodage et une bonne rétention. Dans la foulée, revenons sur une idée reçue assez tenace. Non, manger du poisson ne va pas forcément vous doter d'une meilleure mémoire. Ce neuromythe prend racine dans d'anciennes vérités, corrigées depuis par la science. Tout d'abord, il faut considérer le fait que le poisson contient beaucoup de phosphore, environ 150 mg pour 100 g de poisson, et que le phosphore se retrouve dans les phospholipides qui forment la membrane des cellules des neurones. Mais, car il y a un mais, même si le phosphore reste important pour le cerveau, il n'a pas de réel impact sur les phospholipides ou sur votre mémoire. Ajoutez à cela le fait que le fromage, les œufs et d'autres aliments encore ont une teneur en phosphore bien meilleure que le poisson et vous constaterez que c'est bien une légende urbaine. Pour autant, certains poissons sont source de beaucoup de bénéfices pour votre cerveau et donc votre mémoire. Michel y reviendra plus tard et vous verrez que ce n'est pas la teneur en phosphore qui nous importe. Autre idée reçue, la mémoire pourrait être saturée, pleine. Alors là, c'est plus délicat puisque c'est un peu oui et beaucoup non. Un peu oui, puisque nous l'avons vu au début de cet ouvrage, votre mémoire à court terme est limitée. Beaucoup non, car votre mémoire à long terme ne peut pas être saturée puisque votre cerveau peut créer des connexions et donc des souvenirs ou des idées jusqu'à l'infini.
Merci Fabien. Revenons à nos répétitions. Répéter régulièrement les informations à retenir, bien dormir et le plus longtemps possible, rêvasser entre deux apprentissages, voilà les secrets d'un stockage réussi. Au bout d'une vingtaine de jours, le souvenir devient indépendant de l'hippocampe. Devenu inactif, il est alors stocké dans une mémoire à long terme, comme nous l'avons vu dans le tout premier chapitre de ce livre audio. Nous en possédons 4. La mémoire épisodique stocke les moments marquants de notre vie. La mémoire sémantique, nos connaissances. La frontière entre ces deux mémoires conscientes est poreuse, Si des souvenirs épisodiques se répètent, ils s'agrègent et se transforment en connaissances indépendantes du contexte initial. On dit alors qu'ils se sémantisent. Dans l'autre sens, pour comprendre et créer un souvenir épisodique, votre cortex préfrontal s'appuie sur vos connaissances, de vous ou du monde, stockées dans votre mémoire sémantique. Le stockage a aussi lieu vers les mémoires non conscientes. La mémoire procédurale, pour les apprentissages moteurs, quand les enfants apprennent à marcher par exemple. La mémoire perceptive, pour les sensations durables, souvent liées à la mémoire épisodique. J'introduisais cette notion au début de ce livre audio, la voici plus claire à présent. Nos mémoires interagissent entre elles et ce sont les principes que Fabien exploite dans ses astuces. Une fois stocké, le souvenir est enregistré sous forme d'un réseau aux connexions assez solides. Comme un fichier dans votre ordinateur, il est bien là, rangé quelque part. Le tout est de pouvoir le retrouver au moment où l'on en a besoin. La récupération, trouver le bon indice. Se rappeler quelque chose au bon moment n'est possible que si les précédentes phases, encodage et stockage, se sont déroulées sans accroc. Si la mémoire pouvait parler, elle nous dirait « J'adore quand un plan se déroule sans accroc. » Qui, parmi les plus de 40 ans, se souvient de cette réplique culte ? On peut se rappeler quelque chose de façon involontaire quand un indice, un des fils de la toile du souvenir, fait tilt. Toute la toile tintinabule alors et peu à peu le reste du souvenir ressurgit des limbes. C'est ce qu'il vient de m'arriver à l'instant. En écrivant, se dérouler sans accroc, m'est revenue brusquement cette réplique entendue plusieurs fois à la fin des épisodes de l'agence Touris, qui rarement ailleurs. Je n'ai pas d'éléments de contexte quand c'était et où j'étais exactement. En effet, j'ai dû voir plusieurs fois cette scène, et comme tout événement qui se répète, il s'est peu à peu sémantisé. Je connais la réplique, mais plus le contexte initial. Il était donc stocké dans ma mémoire sémantique, celle de mes savoirs. Et oui, chacun ses références. Pour les plus littéraires, c'est ce que décrit Marcel Proust dans « Du côté de chez Swann ». En portant à sa bouche une cuillère de thé contenant quelques miettes de madeleine, le narrateur ressent brusquement une joie intense, sans en comprendre immédiatement la cause. Ici, l'odeur et le goût font office de puissants indices sensoriels. Le souvenir étant très riche en émotions, ce sont elles qui ressurgissent en premier. Rappelez-vous les bulbes olfactifs dans le système limbique, si proches de l'amygdale et de l'hippocampe. Plus tard, en tirant sur ce fil, il récupérera le reste du souvenir des moments heureux passés chez sa tante. Encore une fois, vous noterez l'extraordinaire pouvoir des émotions sur la récupération d'un souvenir épisodique.
Ces explications scientifiques servent à mieux comprendre pourquoi il est important d'apprendre dans des contextes riches, variés. Vous pouvez d'ailleurs essayer de récupérer volontairement une information que vous avez mémorisée. Vous venez probablement de le faire lorsque Michel vous a demandé d'où provenait cette réplique. Votre cortex préfrontal droit, cette fois, puisque Michel nous a expliqué que le gauche était plutôt impliqué dans l'encodage, a activé ses réseaux pour essayer de remonter le fil à partir des deux indices donnés, la citation et l'époque. Si vous n'avez jamais regardé cette série des années 80, alors votre cerveau n'a rien trouvé. Les indices ne vous ont rien rappelé, c'est normal. En revanche, si cela vous a vaguement paru familier, vous avez peut-être développé plusieurs stratégies pour retrouver l'origine de cette phrase dans votre mémoire. Vous avez associé un plan et sans accroc. Puis c'est peut-être l'image d'un type souriant à pleines dents, cigare à la main dans un van. Ah oui, le van de l'agence Tourisque. Mais c'est bien sûr.
Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Si vous avez plus de 60 ans, cette réplique-là vous rappelle sûrement une autre série, mais je vous laisse chercher tout seul. Même Fabien ne peut pas s'en souvenir. Ces exemples éclairent l'importance des deux premières étapes. Si un souvenir est bien encodé, car chargé émotionnellement ou associé à des connaissances, puis bien stocké, beaucoup de répétitions et de sommeil, il sera bien récupéré au moment voulu. Une fois rappelé, le souvenir redevient actif. Pour le ranger de nouveau dans le disque dur de vos mémoires, il faut le réencoder et restocker. Sauf que pendant sa réactivation, comme un document Word que vous avez rouvert, vous l'avez peut-être modifié. Quand vous le réenregistrez, il n'est plus exactement comme la première fois. Les modifications ont été intégrées, indissociables du document original.
C'est d'ailleurs ce qu'il se passe quand vous racontez souvent une histoire qui vous est arrivée. Votre version actuelle est sincère, dans le sens où vous ne cherchez pas à mentir, mais elle n'est plus tout à fait vraie non plus. Quand vous racontez cette histoire amusante ou intéressante qui vous est arrivée, vous souhaitez inconsciemment garder l'attention des personnes qui vous écoutent. Vous allez donc faire des raccourcis, quelques blagues peut-être, occulter certains éléments et réécrire les dialogues en fonction du temps que vous avez pour raconter. Néanmoins, comme l'expliquait Michel, c'est cette version qui va être enregistrée de nouveau. Comme un spectacle qui se construit, à chaque fois que vous allez raconter l'histoire, vous allez l'améliorer jusqu'à avoir parfois de grandes différences avec l'original.